Donc, comme Marc a annoncé depuis quelques semaines, je vais refaire un message que j'ai fait il y a quelques années. Mais comme on fait avec des livres, qu'on réimprime des livres, ça va être un message légèrement mis à jour. Donc, ça devrait être meilleur qu'avant. I don't know, on va voir. Donc Seigneur, on est juste là pour écouter. Donc, aide-nous à entendre ta voix. Et on te remercie à l'avance, Seigneur. Amen. Donc, et voilà, barrage routier. Donc, combien d'entre vous ont déjà été arrêtés par un barrage routier? Ah, beaucoup. Donc, vous êtes parti, faire un tour en voiture, peut-être pour aller travailler, faire des courses ou simplement pour vous amuser. Mais tout d'un coup, votre trajet est gâché par un barrage routier. Et soyons honnêtes, dans une ville qui a seulement deux saisons, donc l'hiver et la construction, nous finissons tous par tomber sur un barrage routier. Maintenant, c'est une chose de rencontrer un barrage routier ou un autre problème en voiture. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on rencontre un barrage routier dans la vie? Quand on fait face à un problème qui bloque notre chemin, que faisons-nous? Donc, question. Quels sont les problèmes ou barrages routiers auxquels vous êtes confrontés? Quels sont les obstacles dans votre vie ce matin? Donc, pendant que vous réfléchissez à cela, laissez-moi vous raconter une histoire. Donc, au milieu des années 90, l'Alliance chrétienne et missionnaire au Canada, donc c'est notre famille d'église, s'est rendu compte que le Québec était l'endroit le moins atteint par l'Évangile dans l'hémisphère occidental. Ils ont donc monté une stratégie, un budget, pour envoyer une équipe d'ouvriers au Québec pour aider à accomplir ce travail. Et pour faire une histoire courte, Dieu nous a invités, Laurelie et moi, à quitter notre ministère en Ontario à l'époque et à nous joindre à lui dans cette équipe. Donc, en 1998, on est arrivé au Québec avec notre fils Jesse qui avait alors 6 mois. Et Dieu nous avait clairement appelés à venir nous joindre à lui dans cette province. Et nous étions enthousiastes à l'idée de le joindre, ce qu'il était en train de faire au Québec. Et bien sûr, il nous a fallu du temps pour adapter. Par exemple, j'ai dû apprendre le français. Mais avec le temps, nous avons pris racine ici et développé un profond attachement pour le Québec et ses habitants. En collaborant avec Dieu dans ce qu'il accomplissait, nous avons commencé à voir les fruits de nos efforts, en particulier chez les jeunes et les jeunes adultes. Et nous répondions à l'appel que Dieu nous avait lancé et nous voyons un bel avenir se dessiner ici. Puis, en 2007, l'Alliance a pris une décision qui allait transformer nos vies à jamais. Cette décision consistait à retirer notre équipe au complet d'ouvriers du Québec pour la redéployer ailleurs, dans d'autres endroits moins éteints par l'Évangile. Et bien que nous ayons essayé de faire confiance à Dieu dans cette décision et de croire que c'était d'une certaine manière sa volonté parfaite, cela nous a profondément bouleversés. Et le choix qui s'offrait à nous, c'était soit d'être redéployés et de continuer à recevoir du soutien, ou soit de rester au Québec et de perdre ce soutien. J'ai été pas en paix avec l'idée de quitter le Québec. Alors, on a pris la décision de rester sans savoir comment on allait subvenir à nos besoins. Et on faisait face à un gros barrage routier. Je vais continuer l'histoire dans un instant. Mais avant, j'aimerais qu'on regarde une autre histoire où un groupe de personnes s'est retrouvé face à un énorme barrage routier. Donc, dans le chapitre 14 d'Exode, on lit l'histoire du peuple d'Israël et de la traversée de la mer Rouge, comme Marc a mentionné. Donc avant de plonger dans ce passage, voici un bref résumé de ce qui s'est passé. Donc le peuple d'Israël, ou juif, était esclave en Égypte et Dieu a appelé Moïse pour demander à Pharaon de les libérer. Et ça a pris du temps, mais après 10 fléaux, Pharaon a finalement accepté de les laisser partir. Et ensuite, Dieu a dirigé les Israélites vers la terre qu'il leur avait promise. Mais il y avait un gros problème, une immense masse d'eau. Donc la mer Rouge bloquait leur chemin. Donc à l'endroit où ils étaient, la mer Rouge faisait environ 14 km de large, puis 90 mètres de profonde. Ils ne savaient pas du tout comment ils allaient traverser ça. Et puis pour rendre ça encore pire, les Égyptiens ont changé d'idée, puis décidé qu'ils voulaient reprendre leurs esclaves. Donc, ils se sont mis à les poursuivre dans le désert. La mer Rouge était d'un bord, puis l'armée égyptienne de l'autre. Ils étaient pris entre l'arbre et l'écorce. C'est là qu'on reprend l'histoire, à partir du verset 10. Et pour lire le passage ce matin, j'ai invité Lise Harrison de le lire, parce que c'est un long passage et, you know, je suis anglophone. Donc, anyway, c'est bien.
Hello, hello! Donc, c'est lu dans la parole de vie. Comme le roi d'Égypte approche, les Israélites lèvent les yeux. Et voici les Égyptiens qui avancent derrière eux. Ils ont très peur et se mettent à appeler le Seigneur avec force et ils disent à Moïse, « Tu nous as amenés ici dans le désert pour nous faire mourir. Pourquoi donc? Est-ce qu'il n'y avait pas assez de temps en Égypte? Pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir de ce pays-là? Quand nous étions en Égypte, nous t'avons dit, « Laisse-nous servir les Égyptiens. Nous aimons mieux travailler pour eux que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple d'Israël, « N'ayez pas peur. Résistez. Vous allez voir comment le Seigneur va vous sauver aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous les verrez, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur va combattre à votre place et vous, vous n'aurez rien à faire. » Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi est-ce que tu m'appelles au secours? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Toi, prends ton bâton, lève-le sur la mer. Ouvre ainsi un passage pour que les Israélites avancent au milieu de la mer sur un chemin sec. Et moi, je fermerai le cœur des Égyptiens pour qu'ils vous suivent dans la mer. Mais je montrerai ma gloire en écrasant le roi d'Égypte et toute son armée, ses chars et ses cavaliers. Oui, cette défaite du roi d'Égypte, de ses chars et de ses cavaliers, montra ma gloire. Ainsi les Égyptiens sauront que le Seigneur, c'est moi. L'ange de Dieu qui marchait devant les Israélites va se placer derrière eux. La colonne de fumée qui était devant eux passe aussi derrière eux. Elle vient se placer entre le camp des Égyptiens et le camp des Israélites. Du côté des Égyptiens, le nuage de fumée est sombre, mais du côté des Israélites, il éclaire la nuit. C'est pourquoi les Égyptiens et les Israélites ne peuvent pas s'approcher les uns des autres pendant toute la nuit. C'était jusqu'à quel verset, de là? 25? Je ne me rappelle plus.
22,
OK. Oh, il m'en manque un petit peu. Moïse lève sa main sur la mer, et toute la nuit, le Seigneur envoie de l'est un grand vent qui fait reculer la mer. La mer s'ouvre et il y a un chemin sec. Les Israélites avancent sur le chemin sec au milieu de la mer. L'eau forme comme un grand mur à leur droite et à leur gauche.
Ah, merci, Lise. Donc, comme on le découvre en lisant la suite de l'histoire, une fois que tous les Israélites sont arrivés de l'autre côté de la mer Rouge, le tunnel s'est effondré, détruisant l'armée égyptienne. Donc, c'est une histoire incroyable, n'est-ce pas? Mais Dieu a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Il a enlevé un barrage routier pour permettre aux Israélites d'avancer. Quand je réfléchis à cette histoire, je vois certains principes qu'on peut appliquer à nos vies quand on fait face à un problème, quand on rencontre un barrage routier. Donc, premièrement, au verset 10, on lit ceci. Oups, l'autre. Et voilà. Comme le roi d'Égypte approche, les Israélites lèvent les yeux et voici les Égyptiens qui avancent derrière eux. Ils ont très peur et se mettent à appeler le Seigneur avec force. Alors, le premier principe qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que lorsqu'on fait face à un barrage routier, c'est une invitation à crier au secours. Quand des problèmes surviennent dans nos vies, c'est normal d'avoir peur, hein? De se sentir impuissant. On peut même avoir l'impression de se noyer. Et parfois, on se sent comme un animal pris au piège. On fait tout ce qu'on peut pour se libérer. Mais je pense que dans ces moments difficiles, on doit développer le réflexe de lever les yeux vers le ciel et d'implorer Dieu. C'est exactement ce dont parlait le psalmiste David lorsqu'il a écrit ceci dans le psaume 121. Et voilà. Je lève les yeux vers les montagnes. Qui pourra me secourir? Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Mais il y a différentes façons de crier à Dieu, n'est-ce pas? La police, les pompiers puis les ambulanciers ont remarqué que bien souvent, lorsque les gens se retrouvent dans une situation grave, peu importe leur foi, ils crient à Dieu pour les sauver. Par contre, il y a une grosse différence entre crier à Dieu par peur puis panique, puis crier à Dieu avec une confiance profonde en un Dieu tout-puissant. Donc, quand je lis cette histoire, je me demande si les Israélites avaient vraiment compris. Ils venaient de vivre une période où ils avaient vu les merveilles de Dieu, les dix fléaux. Ils avaient été libérés de l'esclavage des Égyptiens. Dieu avait déjà enlevé un énorme barrage routier devant eux. Ils avaient toutes les raisons de croire que Dieu pouvait et allait accomplir un autre miracle pour eux. Par contre, comme on l'a vu, ils ont crié à Dieu davantage par peur et panique que par confiance en sa capacité de les délivrer. Les gens ont commencé à réagir de toutes sortes de façons. Et paniqués, ils se demandaient pourquoi Dieu les avait amenés là. Et puis certains ont même commencé à se préparer à retourner en Égypte. Ils avaient tout un manque de confiance en Dieu. Quand tu penses aux obstacles dans ta vie, est-ce que tu cries à Dieu? Et si oui, qu'est-ce qui te pousse à le faire? La peur ou la confiance en un Dieu tout-puissant? Ce même Dieu qui a dit, « Je ne te laisserai jamais tomber, ne t'abandonnerai. » Le Dieu des miracles. Le Dieu qui nous aime avec un amour parfait. Il est là. Il écoute. Puis il a la solution à tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Alors, comment est-ce que tu réponds à l'invitation de Dieu à lui faire confiance? Est-ce que tu trouves ça difficile ou peut-être facile? Comment est-ce que tu as vu Dieu agir dans le passé? Puis, comment ça pourrait t'aider à lui faire confiance pour la situation que tu vis présentement? Il y a-t-il quelque chose que tu pourrais faire pour renforcer ta confiance en Dieu? Quand les barrages routiers se pointent, commence par crier à Dieu pour qu'il vienne t'aider. Et ensuite, au verset 13, nous lisons ceci. Moïse répond au peuple d'Israël, « N'ayez pas peur, résistez, vous allez voir comment le Seigneur va vous sauver aujourd'hui. » En effet, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur va combattre à votre place et vous n'aurez rien à faire. Alors, Moïse était convaincu que Dieu allait les sortir de la situation. Il s'adressa au peuple en disant, « Calmez-vous, Dieu s'en occupe. » Et voici donc notre deuxième principe. Lorsque nous nous trouvons devant un barrage routier, Dieu nous invite à rester calme et attendre sa solution. Il répondra peut-être pas toujours comme on l'attend, mais il répondra. OK, je ne sais pas si je suis le seul à le faire, mais j'ai souvent envie d'aider Dieu avec sa réponse. Donc, peu de temps après notre déménagement à Montréal, il est devenu évident qu'on devait remplacer notre vieille mini-fourgonnette. Nous avons donc commencé à prier à ce sujet. On avait entendu parler de la façon dont Dieu avait pourvu des voitures à d'autres. Alors, on a décidé d'attendre un certain temps pour voir si Dieu allait faire la même chose pour nous. Et quelques mois ont passé et je suis devenu impatient. Donc, j'ai commencé à consulter les sites web des différents concessionnaires automobiles en me disant que ça ne ferait pas mal de regarder combien coûterait une mini-fourgonnette d'occasion. Et j'en ai trouvé une qui semblait être une bonne affaire avec un kilométrage relativement bas. Et pour faire court, on a fini par l'acheter. Donc, je vous raconte cette histoire non pour vous dire que Dieu ne nous a pas conduits à cette mini-fourgonnette ou pour vous dire que cette mini-fourgonnette ne nous a pas satisfaits. Elle nous a été très utile au fil des années. Non, je vous raconte cette histoire plutôt parce qu'après l'avoir achetée, Laurélie et moi avons tous les deux ressenti ce sentiment persistant qu'on avait peut-être manqué la façon dont Dieu voulait pourvoir à ce besoin. Il y a une différence entre ce qui est bon et ce qui est le meilleur. La solution de Dieu est toujours la meilleure. Donc imaginez si certains Israélites avaient décidé de chercher un bateau pour traverser la mer Rouge. Peut-être qu'un petit groupe aurait réussi à atteindre l'autre rive de la mer, mais serait passé à côté de l'un des plus grands miracles de toute l'histoire du monde. Quand on fait face à un barrage routier, c'est une invitation de Dieu à rester calme et attendre sa solution parfaite. Alors ce matin, si tu fais face à un obstacle, est-ce que tu es calme ou agité? Est-ce que tu attends la solution de Dieu? La meilleure solution? Ou est-ce que tu essaies de régler le problème par toi-même? Comme moi. Si tu as la misère avec ça, qu'est-ce qui est au cœur de ton combat? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton passé? Peut-être une prière qui semble pas avoir été exaucée? Ou même une déception qui te touche encore aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour entrer dans un état de calme? Un état qui te permettrait d'attendre la solution de Dieu en paix. Donc, répondons à l'invitation de Dieu ce matin à rester tranquille, puis à attendre qu'il fasse ses merveilles. Bon, Moïse essayait de calmer tout le monde en leur disant que Dieu aller ouvrir un chemin, quand Dieu dit ceci au verset 15. Donc le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi est-ce que tu m'appelles au secours? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Toi, prends ton bâton et lève-le sur la mer. Ouvre ainsi un passage pour que les Israélites avancent au milieu de la mer sur un chemin sec. » Donc notre dernier principe est le suivant. Quand Dieu répond, quand sa solution arrive, c'est une invitation à passer à l'action. Mais en lisant ces versets, je me demande si vous avez remarqué les mêmes choses que moi. Dieu a dit au peuple de commencer à avancer, mais le chemin à travers la mer Rouge n'était pas encore là. C'est juste quand ils se sont avancés vers la mer, puis quand Moïse a levé son bâton au-dessus de l'eau, qu'un chemin s'est ouvert devant eux. Peu importe comment Dieu répond à nos prières, Il y a toujours un moment où il nous invite à agir. Et cette action demande parfois un pas de foi. Bon, revenons à l'histoire que j'ai commencée au début. Donc, ma femme et moi étions devant un énorme barrage routier. On ne savait pas quoi faire. Alors, on a crié à Dieu pour qu'il nous aide et nous guide. Et puis, pendant qu'on se demandait quoi faire, je n'oublierai jamais la nuit où j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai regardé la pelouse devant notre maison. Tous nos biens y étaient, comme si on attendait l'arrivée d'un camion de déménagement. Et sur la pelouse, il y avait un panneau à vendre. Et tout d'un coup, le téléphone a sonné à l'intérieur de la maison. Et quand j'ai répondu, une voix à l'autre bout du fil m'a dit que le déménagement était une erreur, et qu'on devait remettre nos affaires dans la maison. Et quand je me suis réveillé de ce rêve, j'ai ressenti un profond sentiment que les choses allaient s'arranger, que Dieu enlèverait le barrage routier, qu'il ouvrait un chemin et qu'il allait pourvoir à nos besoins. Mais malgré tout, ça a pris un pas de foi de notre part pour rester au Québec et attendre ce que Dieu allait faire pour nous. Mais pour faire une histoire courte, peu de temps après, le district nous a proposé un nouveau rôle et un partenariat qui répondrait à nos besoins. Et aujourd'hui, 16 ans plus tard, on est toujours au Québec. Donc, il y a des moments où il faut se reposer et attendre, mais il y en a d'autres où il faut agir. Je suis pas mal certain qu'on a tous entendu l'histoire du gars qui était en train de se noyer, qui a crié à Dieu de le sauver. D'abord, un sauveteur arrive pour l'aider, mais l'homme refuse en disant que Dieu va le sauver. Pas longtemps après, un bateau passe. Mais encore une fois, l'homme refuse l'aide, disant qu'il attend que Dieu le sauve. Et enfin, un hélicoptère arrive sur les lieux. Et une fois de plus, l'homme refuse l'aide et finit par se noyer. Donc, il arrive au ciel et demande à Dieu pourquoi il ne l'a pas sauvé. Eh bien, répond Dieu, je t'ai envoyé un sauveteur, un bateau et un hélicoptère. Que voulais-tu de plus? Si tu fais face à un obstacle ce matin, est-ce que Dieu t'invite à passer à l'action? Peut-être que son invitation demandera un pas de foi. Y a-t-il quelque chose qui te retient ou qui te paralyse, t'empêchant d'avancer? N'ayons pas peur de répondre à l'invitation de Dieu à agir selon sa solution à notre barrage routier. Et faisons un pas de foi vers notre délivrance. Alors, lorsque nous nous trouvons devant un barrage routier, Dieu nous invite à lui crier au secours, à rester calme et attendre sa solution, et à agir quand sa solution arrive. Donc, où est-ce que tu te trouves ce matin? C'est une bonne question. Donc, dans un moment, je vais nous guider dans une prière. Et pendant que je prie, je vous invite tous à répondre à l'invitation spécifique que Dieu a pour vous aujourd'hui. Je pense qu'il aimerait vous rencontrer personnellement dans ce que vous vivez. Donc, peut-être, est-ce que ça serait bizarre de vous inviter à vous lever et peut-être juste même tendre les mains, juste comme un symbole de l'ouverture de ce que Dieu voulait vous donner ce matin. Donc, prions. Père Céleste, merci parce que tu sais ce dont nous avons besoin avant même qu'on te le demande. Merci de nous aimer et de connaître tout ce qui se passe dans nos vies. Pour ceux qui font face à un barrage routier ce matin, Seigneur, rappelle-leur que tu es avec eux et qu'ils ne sont pas seuls. Et ceux qui s'inquiètent ou paniquent à se tourner vers toi et donnent leur tapis en échange de leur anxiété. Pour ceux qui essaient de trouver leur propre solution, aide-les à attendre ta solution parfaite et donne-leur ton repos. Pour ceux qui te montrent déjà une solution, aide-les à comprendre ce qu'ils doivent faire et donne-leur le courage de poser un pas de foi. Nous t'aimons, Père, et nous mettons notre confiance en toi ce matin. Amen.